Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC et RMC Story avec Joël Dagosseri, la coach de vie, Didier Giraud, l'éleveur de bovins, et Charles Consigny, l'avocat. On est à J-100 avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. On vient de l'évoquer avec David Douillet. Vous le savez, toute la journée, on vous fait gagner des places. À la 24e minute de chaque heure, dans les GG et ensuite dans les autres rendez-vous, on vous appelle, on appelle l'un d'entre vous pour vous offrir deux places pour assister aux épreuves les plus prestigieuses des JO. La cérémonie d'ouverture, la finale du 100 mètres ou encore le tennis de table, le judo, etc. C'est à vous de choisir. Alors pour participer et pour qu'on puisse vous appeler, il faut s'inscrire en envoyant Paris 2024 au 7 32 16. Paris 2024 au 7 32 16. Et donc à 10h24 pile, j'appelle l'un d'entre vous pour vous offrir deux places. Et en plus, vous avez le choix des compétitions. Didier Giraud aimerait bien y participer. Il est là, il en peut plus. Hein. Mais tu peux, hein, essaye au 732-16. Allez, tu envoies donc par SMS Paris 2024. On va commencer cette nouvelle heure par regarder ce qui se passe du côté de la foire du trône. C'est l'une des plus belles foires et une des plus populaires en France. Elle a lieu chaque année au même moment, au printemps, dans le 12e arrondissement, sur la pelouse Reuilly. Mais alors, visiblement, ces foires, enfin cette foire et d'autres foires d'ailleurs, parce qu'on a d'autres retours, ça devient le théâtre de rixes et de mouvements de foule, nécessitant parfois l'intervention des forces de l'ordre et effrayant surtout les familles qui hésitent désormais à aller à la foire du trône ou dans des fêtes foraines. Est-ce que les fêtes foraines sont devenues des zones hors de contrôle? On en débat dans les GG.
RMC, les grandes gueules.
Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des bandes de jeunes qui veulent marquer un territoire, vous savez, suite aux émeutes qu'il y a eu, ils ont pensé que il faut se réunir pour foutre le bazar ou alors perturber des animations. On voit se monter ça depuis quelques temps, donc depuis un an. Et ils pensent avoir un lieu de territoire à marquer, donc ils viennent essayer de racketter, essayer de vendre ce qu'ils ont à vendre, hein, ou de venir régler des comptes avec d'autres bandes. Et malheureusement, nous, en tant que professionnels de la fête, nous on est là pour amuser les gens, on n'est pas là pour faire la police. La police essaye de faire le maximum aussi, mais ces faits d'incivilité prennent de l'ampleur.
Ça, c'est René Ayoun qui parlait, le président de l'Union intersyndicale des entreprises foraines de France, qui était l'invité ce matin d'Apolline de Malherbe sur RMC. Le problème, c'est que les accrochages, les bagarres, ça a toujours existé, sauf que maintenant, il y a le phénomène réseau social. C'est-à-dire que ces accrochages sont filmés puis diffusés sur les réseaux sociaux. Ça fait des millions de vues. Notamment, il y a une bagarre. Alors, je ne sais pas si on a des images, mais il y a une vidéo qui montre une violente bagarre entre plusieurs personnes. Et cette vidéo, elle a été vue par plusieurs millions de personnes en quelques heures depuis lundi. Voilà. Regardez sur ceux qui sont branchés sur RMC Story. On voit donc effectivement des types qui se tapent dessus. Alors, on ne sait plus trop pourquoi. Et le problème, c'est que ça, c'est diffusé partout et ça effraie les familles qui se disent, voilà, moi je vais pas y aller avec mes gamins parce que c'est des endroits où on prend des coups alors qu'on est censé s'amuser, faire un tour d'auto-tamponneuse, aller prendre une barbe à papa, je sais pas. Toi t'aimais bien quoi? Moi j'aime bien le train fantôme par exemple. Hein, mais bon, c'est vrai que ça effraie ça, Joël. T'as déjà été dans cette foire du trône?
Oui, et j'ai arrêté d'y aller. J'étais déjà peut-être fin de l'adolescence.
Ah oui, à cause de ça?
Ça, c'était, moi, je sais pas pourquoi on en parle maintenant, parce que c'était déjà craignos. Ça commençait déjà à craindre quand j'avais 18 ans. Donc, moi, j'ai arrêté d'y aller. Pourtant, j'adore les parcs d'attractions, les foires, etc. Quand je vais en vacances dans d'autres régions de France, c'est la chose que je cherche en premier parce que c'est trop bien avec les enfants, c'est pratique, c'est lumineux. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses que j'aime bien. Mais la foire du trône, particulièrement, non. Je n'emmène pas ma fille. J'ai peut-être dû l'emmener une fois, elle avait peut-être 2 ans, mais c'est non. Et si elle me dit qu'elle veut y aller avec des copines et tout, ce sera non. Elle n'ira pas. Enfin, ça craint. honnêtement, ça craint.
Donc, tu ne laisserais pas ta fille seule avec des copines, même l'après-midi, à la foire du Trône?
Non, pas du tout. Ce qu'on fait encore, c'est les Tuileries, parce que dans le jardin des Tuileries, ils font encore il y a une petite fête foraine, etc. Donc, ça, je l'ai encore fait et tout. Bon, là, elle a 14 ans, donc ça commence un petit peu à la saouler. Mais je l'ai fait. Mais sinon, la foire du Trône, non, ça craint. Alors, et c'est pas d'aujourd'hui,
pourtant,
en fait.
Pourtant, la foire du Trône, moi, je connais bien aussi l'endroit. Ils avaient quand même sécurisé ces dernières années. Ils ont mis de la vidéosurveillance, ouais. Ils ont mis des agents de sécurité à l'entrée,
là,
comme ça, qui permet
scolaires.
Un peu de filtrer. Voilà, les bandes de loulous qui arrivent, on les voit arriver, hein, donc peut-être de leur dire de pas venir. Il y a aussi la police municipale qui vient, qui peut fouiller. Mais visiblement, en fait, la nouveauté, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça prend une ampleur considérable parce que c'est filmé. On a l'impression que c'est le Far West. Il y a d'ailleurs certains forains qui estiment que ça amplifie le sentiment d'insécurité. C'est pas aussi terrible que ça, mais on a l'impression que c'est des bagarres à chaque coin de manège, quoi. Didier Giraud.
Je me demande jusqu'à quel point il faudrait pas qu'il fasse comme un parc d'attraction, quoi, qu'il clôture et qu'il paye l'entrée.
Mais oui.
Tu vois, si
ouais, mais
tu
c'est
veux
pas l'esprit d'une fête foraine.
Non, c'est pas du tout l'esprit d'une fête foraine. N'empêche qu'aujourd'hui, ce genre de phénomène, il n'existe pas dans un parc d'attraction parce que tu as une entrée, tu as un contrôle à
filtre par l'argent.
Par l'argent et par le facile. Enfin, t'as des.
Quand tu as payé,
Non, mais t'en fais pas un lieu pour te donner rendez-vous entre bandes et te mettre sur le nez, quoi. Tu trouves d'autres lieux. Celui-là en reste un.
Oui, mais les foires, les fêtes foraines, c'est le côté populaire, justement.
Bien sûr.
C'est
non, mais je le comprends, ça. Je le comprends, mais si Joël nous dit quand j'avais 18 ans, on n'y allait déjà plus parce que ça craignait la foire du Trône, donc moi, j'ai jamais mis les pieds, j'ai pas.
T'as déjà été dans les fêtes foraines?
J'ai jamais été un grand fan.
Ah bon
et du coup, c'est quand même des lieux, il y a toujours eu un peu des bagarres, quand même, les fêtes foraines, quoi. Les fêtes foraines, les balles, il y a quand même des lieux qui sont connus pour ça, quoi.
Didier, dans les balles, je peux te dire, à 20 ans, ça devait y aller.
Un peu.
Ah bah tu le reconnais.
Ah non, mais moi j'ai pas eu un passé que de sain, quoi. Hein. N'empêche
que. Tu crois que t'es sain aujourd'hui?
Non, mais n'empêche que t'as raison sur le fait que le fait de filmer ces bagarres et les réseaux sociaux, ça donne une amplification et des sentiments différents. Ça aspire parfois à la vengeance. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui découlent des réseaux sociaux.
Il y a un forain qui disait.
N'empêche que les bagarres entre jeunes, entre bandes de loulous, entre les blousons noirs, les cheveux longs.
Non, mais
c'est pas
que de la bagarre.
Quoi, enfin.
Non, t'as des gens qui savent pas se tenir. Tu as des gens qui ne savent pas se tenir. Moi, je dis, à un moment, il faut mettre les gens en face de leur responsabilité.
Notamment
c'est gratuit. On peut y avoir accès, c'est le côté sympa. Vous savez pas vous tenir, on va vous faire payer. Comme ça, vous n'y rentrerez plus. Enfin, il y a un moment, je suis désolée, moi, je vais essayer des choses.
La solution, c'est donc de faire payer l'entrée.
Bah, ça fait un filtre.
Vous êtes un peu, je pense, pas tout à fait dans le sujet. C'est que ce qu'on a vu, c'est que ce sont des bandes de racailles qui ont investi cette foire du Trône et que on a vu ces bandes faire reculer des policiers, ce qui a beaucoup choqué les gens sur les réseaux sociaux. Ouais. Et pourquoi l'autre vidéo que vous avez diffusée, elle a plu? C'est parce que c'est un forain qui a mis ce qui a été appelé sur les réseaux sociaux une patate salutaire à une racaille qui fuyait la zone après avoir foutu le bordel. Et après, malheureusement, ce pauvre jeune homme se retrouve roué de coups par d'autres forains. Et les gens sur les réseaux sociaux ont dit, voilà, les forains, faut pas trop les chercher. Et donc, qu'est-ce que ça traduit, ça? Même si on peut jamais justifier ni accepter que quelqu'un soit roué de coups. Ça traduit une incroyable exaspération contre ce phénomène de société que sont les jeunes Kaira. Les gens n'en peuvent plus, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, et ça s'exprime notamment à la foire du Trône. Et Joël a raison, il y a des gens qui savent pas se comporter. Ces mêmes racailles, souvenez-vous, il y a pas très longtemps, mettaient le bordel dans les salles de cinéma. Mmh. On avait des reportages, des reportages spontanés, des gens qui filmaient un incroyable bordel dans des salles de cinéma.
Surtout
où vous
des
aviez
films
des jeunes qui ne savaient pas se tenir dans une salle de cinéma.
Films,
vous avez eu le point paroxystique qui ont été les émeutes que le Sénat a chiffré à un coût exorbitant, centaines de millions d'euros pour la collectivité. Donc ça, c'est un vrai phénomène. Moi, je ne veux pas, comme on dit, stigmatiser qui que ce soit, etc. Mais je pense que ces bandes de jeunes désœuvrés, qui ont quand même en commun un style vestimentaire, une façon de parler et parfois malheureusement une très forte tendance à la violence, au phénomène de bande, à la délinquance,
groupe, d'ailleurs, hein, on tombe
à la criminalité, il faut à un moment donné s'en occuper. Voilà, Sarkozy a essayé à moitié de le faire avec l'histoire du Karcher, etc. Depuis, ça s'est un peu délité. Finalement, maintenant, on fait plus rien. On les laisse végéter, tenir les murs dans les cités. Il est temps quand même de s'emparer de ce problème, puisque c'est après tout, c'est une partie de la jeunesse française qui aujourd'hui est en fait plus ou moins déscolarisée, désocialisée, pas dans le monde du travail,
c'est
pas
ce qu'on appelle l'ensauvagement
universitaire. Il y a un problème et on peut pas indéfiniment pleurer devant les causes de ce problème sans aller s'attaquer aux conséquences et prendre en main cette
mais
jeunesse.
Toi qui es dans les tribunaux, Charles, est-ce que ce phénomène y grossit ou est-ce que les réseaux sociaux le rendent plus visible?
Je pense que les réseaux sociaux le visibilisent, oui. Je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a un vrai phénomène d'augmentation de ces jeunes?
C'est une caisse de résonance. Les réseaux
sociaux. J'en sais rien, mais je pense que le phénomène qu'il y a, c'est que
c'est plus
là
violent.
Pour le coup, je vais. Enfin, c'est qu'on ne donne plus. Je dis pas qu'on doit le faire, etc. Il y a une responsabilité personnelle de ces jeunes qui s'enferment là-dedans. Mais la société ne fait plus du tout l'effort d'essayer de donner, d'une manière ou d'une autre, des perspectives à ces jeunes. Il n'y a plus de boulot qui est fait de ce côté.
Michael est avec nous. Il habite Fontainebleau, en Seine-et-Marne, mais il a longtemps vécu près de la Foire du Trône. Michael, bonjour.
Bonjour à toute l'équipe.
Vous connaissez bien l'endroit?
Moi, j'ai grandi à côté, dans le 13e, et bon, je dis pas que Joël est très vieille, mais je pense que par rapport à mon âge, quand elle dit qu'elle, par rapport à plus jeune, ça correspond à moi quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais encore mineur, ça a toujours été réputé pour que c'était des lieux d'affrontement entre bandes. Ouais. Sauf qu'à l'époque, c'était des coups de barre, des coups de couteau, et le filtrage à l'entrée, c'était pas à cause des terroristes, c'était justement à cause des bandes à l'entrée. Ouais. Sauf qu'après, ils ont mis des vrais CRS qui cognaient à l'intérieur, et ça rigolait pas. C'était revenu à peu près calme. Et puis là, depuis 2-3 ans, il y a un re-phénomène de réseaux sociaux. Mais ce qui se passe là, moi j'étais il y a le week-end de Pâques avec mes 4 enfants. J'étais avec mes 4 enfants le week-end de Pâques, le dimanche. C'était très bien.
Mais le soir, en revanche, le soir, ça se gâte.
Le soir, ça, c'est un peu plus gâte, mais comme l'a dit, en fait, tout ce que vous avez dit, vous avez tous raison, mais vous les voyez à 10 km, ils sont tous en survêtements noirs, cache-cou qui est mis sur le creux de la tête. Mais aujourd'hui, vous avez tous les wokistes et tout, je veux dire, entre les gens qui vont aller faire pleurer ces gens-là, vous les attrapez, vous attrapez une vingtaine de CRS qui les mettent sur le côté, il y en a un qui bouge, vous avez passé un sale quart d'heure, point.
Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup été à la Foire du Trône. Il y a un moment donné où ça craignait. Il y a un moment donné où ils ont fait le ménage. Ils avaient mis effectivement des filtres dans le sens où il y avait des agents de la police présentes, visibles devant, et donc ça calmait à mon avis les gens. Et là, de nouveau, vous nous dites que ça s'est malheureusement détérioré.
C'est les petits jeunes qui ont même pas. Je pense que c'est les mêmes jeunes qui étaient sur les émeutes que vous voyez sur les équipes.
Ouais, c'est les mêmes.
C'est l'effet de bande. C'est des mineurs qui connaissent pas la vie. Ils ont fait le malheur. Je veux dire, quand on a un certain âge, on sait qu'on va pas s'en prendre aux forains chez eux. C'est complètement stupide, la vidéo dont vous parlez là. Aller s'en prendre aux forains chez eux dans une Foire du Trône fermée, c'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, ce qui se passe dans la société. Oui, voilà, c'est ça. C'est que ces gens, ils connaissent pas encore la vie. Je veux dire, ils sont pas très fut-fut, ceux-là. Ils connaissent pas encore la vie. Et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur la vidéo dont vous parlez, malheureusement, ce qui est triste dans ce pays, c'est que la plupart des commentaires, c'est la bonne méthode.
On a du mal à leur donner tort, quoi. Hein.
On félicite les forains parce qu'on se dit, s'il n'y avait pas les forains, ils feraient la loi.
La vidéo, la police, ils arrivent, poussez-vous. Non, la police, ça doit arriver, matraquer moi ces jeunes-là. Il faut pas séparer. Dégagez. Pourquoi la police, elle sépare? Non, c'est des jeunes, je le dis souvent quand j'interviens dessus, c'est des jeunes qui ne comprennent, ils ne respectent pas, ils craignent. Ils ne comprennent que le langage de la violence. Et c'est pour ça.
Oui, enfin, la violence qui répond à la violence, ça a aussi ses limites.
Oui, mais vous savez, c'est comme on dit, aujourd'hui, quand je dis que ça a pas ses limites, c'est que les gens doivent craindre. Il faut craindre la police. C'est oui, monsieur l'agent, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais?
Ou sinon, effectivement, c'est chacun se défend. Les forains, ils savent se défendre, ils savent se battre. Mais bon, c'est pas non plus une solution.
Non.
La solution, les forains, ils sont pas là pour se battre. Ils sont là pour gérer leur manège. C'est une activité importante, la Foire du Trône pour eux. Ils sont pas là à faire la police. Joël,
il y a quelqu'un? Non, mais les images de...
Joël, tu es là?
Les images de ces jeunes qui avancent... Maintenant, je pensais que c'était à Mickaël de répondre. Les images de ces jeunes qui avancent vers la police et la police qui recule. Enfin, moi, c'est des images...
C'est terrible, en fait.
C'est terrible. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est terrible. C'est la même chose que je voyais chez les Gilets jaunes ou des choses comme ça. À chaque fois, en fait, ça me fait un effet, mais c'est terrible. J'ai vraiment l'impression, quelque part, que c'est comme une... une défaite, mais même personnelle. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça assez assez terrible. Et je préférais, alors sans, je suis pas, j'ai toujours été contre les violences policières, mais je préférais des policiers qui ne bougent pas, voilà, qui ne bougent pas, plutôt que ce recul qui est terrible, quoi.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette foire du trou, dans l'espérance que ça se termine bien, avec le prochain week-end justement se termine, enfin se passe mieux que les deux précédents week-ends où c'était un peu chaud. Merci à Mickaël pour ce témoignage. Dans un instant, mes chers grandes gueules, on s'en fout pas. Anaïs Sens va nous rejoindre.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec Joël Dagosséry, la coach de vie, Didier Giraud, l'éleveur de bovins, et l'avocat Charles Consigny. Vous le savez, à tout moment, vous pouvez podcaster les GG. La première heure, par exemple, notre débat sur les logements sociaux qui devraient être réservés aux fonctionnaires. On avait aussi David Douillet face aux GG tout à l'heure à 9h40. Et puis, il y a aussi ces petits podcasts, ces petites séquences qu'on enregistre pendant la pub. Là, par exemple, vous saurez tout du summer body de Didier Giraud. Comment Didier se prépare pour l'été. C'est une préparation quasi scientifique. Ah, attention, on va jouer et on va faire gagner des places pour les JO. Je vais appeler une auditrice ou un auditeur pour lui offrir deux places. Elle ou il se sont inscrits en envoyant Paris 2024 pour gagner deux places pour assister à soit la cérémonie d'ouverture, soit une épreuve. Allez, c'est parti, on appelle. Bon, est-ce qu'on a fait le numéro? J'entends rien. On n'a pas la sonnerie.
Si, ça sonne.
Non, ça sonne, mais on n'entend pas. Quelqu'un fait la sonnerie? Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Thomas, vous êtes en direct sur RMC, RMC Story, c'est Olivier Truchot avec les grandes gueules.
Ah, bonjour Olivier, comment ça va?
Je vous pose la question parce que moi ça va, mais vous, ça va aller très très bien parce que vous allez assister aux Jeux Olympiques cet été.
Ah mais ça c'est génial, mais je suis trop content, hein. C'est incroyable, j'en reviens pas. J'ai joué purement par hasard ce matin en me disant, faut quand même que je tente une fois dans ma vie de jouer à un jeu. Hein.
Vous êtes dans le Haut-Rhin, vous allez vous déplacer vers Paris. Alors je vous propose deux choix. Soit deux places pour assister aux finales masculines et féminines de boxe, c'est le 10 août à Roland-Garros. Soit deux places pour assister aux épreuves d'athlétisme, la finale homme du 200 mètres, le 110 mètres haies, le javelot, la finale femme du 400 mètres haies, et ça c'est au Stade de France, c'est le 8 août. Donc soit la boxe, soit l'athlétisme, à vous de choisir.
Alors, je vais choisir l'athlétisme le 8 août.
Pourquoi?
Alors, j'ai plus d'affinité avec l'athlétisme qu'avec la boxe. Alors je vais devoir un peu m'organiser pour les vacances, mais je suis trop content d'aller voir.
Vous allez vous régaler.
Ah, ça va être génial.
Vous avez déjà été au Stade de France?
J'ai déjà été au Stade de France, ouais.
Mais si vraiment vous êtes aux Seychelles, on peut s'arranger, Thomas.
Oui,
m'envoie Didier Giraud à votre place.
Une place.
Je vais rentrer d'Italie un jour plus tôt pour aller.
Le 8 août, en plus, ça va être magnifique, les épreuves d'athlétisme. Ça va être super. Bravo à vous, Thomas. Profitez-en bien et puis vous nous raconterez ça au 32-16. Bravo
beaucoup,
à vous. Ouais. Merci de votre fidélité du côté du Haut-Rhin dans l'Est de la France. C'est pas fini, hein. À 11h24, un nouveau gagnant ou une nouvelle gagnante et ça sera comme ça toutes les heures, à la 24e minute de chaque heure dans les GG pour fêter ces 100 jours, J-100, avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Allez, on enchaîne, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Anaïs Sens, bonjour.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Une interdiction qui fait polémique. En Belgique, à côté de Bruxelles, une réunion de représentants de la droite nationaliste qui devait avoir lieu hier, avec Éric Zemmour, le Britannique Nigel Farage ou encore Viktor Orban, a été interrompue. Décision des autorités bruxelloises. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles?
On ne s'en fout pas.
Didier?
On ne s'en fout pas.
Joël?
On s'en fout.
C'est le bourgmestre de la commune bruxelloise de Saint-Josse où devait se tenir cette réunion qui a justifié sa décision pour garantir la sécurité publique. Interdiction sur le tard puisque des participants étaient déjà présents dans la salle. Les policiers sont arrivés pour bloquer ensuite donc l'accès aux nouveaux arrivants, dont Éric Zemmour a resté à l'extérieur. Pourquoi on s'en fout pas, Charles?
Non, j'ai vu que Éric Zemmour avait dénoncé un pays qui était entre le califat et la dictature. Je ne sais plus très bien comment il l'a formulé. Et il a rappelé que Victor Hugo, lui, avait trouvé asile en Belgique quand il était ciblé par le gouvernement français. Alors, n'est pas Victor Hugo qui veut, mais je pense qu'il n'a pas complètement tort. Je pense que les Belges ont été extrêmement passifs face à l'islamisme. Je vous rappelle quand même que des terroristes qui ont frappé sur le sol français avaient grandi à Molenbeek, un quartier qui a été laissé totalement à la dérive par les autorités belges qui n'ont pas voulu voir la réalité du problème, c'est-à-dire la constitution d'un micro-califat sur le territoire belge. Et je suis, moi, par principe, hostile à ce qu'on interdise une réunion où, somme toute, il n'y avait pas des néo-nazis. C'est-à-dire que Nigel Farage,
c'est le monsieur Brexit
anglais. Bon, voilà. Orban, on peut le contester, mais c'est pas non plus un terroriste. Donc je constate,
si vous voulez, une atteinte à la liberté d'expression.
Je pense que c'est une grave atteinte à la liberté d'expression, et je pense que c'est on peut pas d'un côté être faible avec les islamistes et de l'autre être fort avec la droite de la droite. Je pense que c'est un terrible aveu d'impuissance et de culpabilité. Et d'ailleurs, je considère, enfin, j'ai vu que la Macronie, par exemple, se réjouissait de l'interdiction de cette... j'ai vu comment Clément Beaune, qui faisait un tweet contre Zemmour, en disant « En effet, vous n'êtes pas Victor Hugo », mais qui condamnait pas du tout l'annulation de l'événement. Et même Pascal Clark, l'ancienne grande voix de France Inter, qui se réjouissait de la...
Matin, Glucksmann a dénoncé cette interdiction. Apparemment,
Raphaël Glucksmann a dénoncé,
Bon, heureusement. Oui. Disons, décidément, Glucksmann, maintenant, c'est le nouveau. C'est la nouvelle voix qui porte.
En même temps, la liberté d'expression, quand tu es pour la liberté d'expression, tu es pour la liberté de l'expression de ceux qui pensent.
Je salue le fait que Glucksmann ait dénoncé l'interdiction.
Fait que ça soit en Belgique, on s'en fout un peu.
Ça dit peut-être quelque chose de Bruxelles, de ce bourgmestre.
Oui, non, mais bien sûr.
Ex-socialiste, voilà, d'ailleurs, mais qui a été viré.
Le lien qu'a fait Charles, je le ferai pas, même s'il existe. Moi, je me dis que des gens qui représentent des partis, à partir du moment où ces partis sont pas interdits dans leur pays, ils sont légitimes à faire une réunion à Bruxelles. Voilà. C'est tout. Point barre.
En plus, tu victimises les personnes qui sont intéressées.
Mais c'est ça. Ils attendent que ça. Un mec comme Zemmour, il attend que ça.
Joël.
Elle s'en fout. Anaïs,
les
GG. Alors, écoute.
Une série consacrée à Brigitte Macron en préparation. Est-ce qu'on s'en fout pas, Joël?
Je m'en fous pas.
Didier?
Complètement.
Oh, Charles?
Non, on s'en fout pas.
C'est Gaumont qui va développer cette série intitulée Brigitte, une femme libre. 6 épisodes de 45 minutes. Une mini-série qui retracera la trajectoire romanesque de la première dame. Romanesque. L'écriture a commencé, les GG. Le casting n'a pas encore été...
C'est pas un documentaire,
c'est
un peu tôt.
C'est une mini-série
de fiction. Pourquoi on s'en fout pas, Joël?
Moi, je suis atterrée, en fait, des adjectifs et des qualificatifs attribués à Madame Macron, que je respecte, et je respecte leur couple, mais enfin, c'est quand même une adulte, une prof, qui a détourné un mineur. Donc, je suis désolée. Il faut quand même le rappeler, même si l'histoire dure, elle dure aujourd'hui, et heureusement, et on voit bien qu'ils s'aiment et que Monsieur Macron, il est heureux. Mais je suis désolée, c'est une histoire qui a commencé avec une adulte et un mineur.
Oui.
Et je vois pas en quoi on devrait appeler ça une femme libérée.
Il avait 15 ans.
Voilà, femme libérée. Aujourd'hui, si ma fille, elle a 15 ans, et que son prof de 40 ans, ou je ne sais quel âge...
Et qui s'appelle Gérard Depardieu.
Oui, encore pire.
Voilà, non, mais tu vois.
Si elle me raconte qu'elle est amoureuse de son prof, et que son prof aussi quitte femme et enfant, je t'assure que je casse tout dans l'école. Donc, excuse-moi.
L'amour n'a pas d'âge.
Non, mais
Joël n'a pas tout fait tort. Imaginons l'inverse.
Les qualificatifs.
C'est une fille de 15 ans avec un mec de 40 ans. Aujourd'hui, c'est quasiment du pénal.
Calme-toi avec le puritain. On a eu vraiment des histoires en France qui sont pas belles. D'accord? Donc, on a des, comment s'appelle la dernière actrice qui
Judith Godrèche.
Les Maznev.
Judith Godrèche. Bresch, elle fait ça pour relancer sa carrière, parce que personne s'intéresse à elle.
Les Frédéric Mitterrand, etc. Enfin, il y a un moment, faut quand même prendre conscience que.
Après, pardon, mais Emmanuel Macron n'est pas sous emprise.
Et puis, tu peux pas comparer.
Mais non, mais Joël, il avait 15 ans.
Joël, tu peux pas mettre dans le même sac Gabriel Matzneff, qui officiellement s'envoyait des mineurs en Thaïlande.
C'est pas la même chose.
Frédéric Mitterrand, Benoît Jacquot.
Il était reçu partout. Il était en odeur de sainteté.
Non, pas Matzneff. Pardon, mais non, mais c'est là qu'on est puritain.
Matzneff
n'a jamais été reçu partout. Ensuite, moi, je suis désolé. Non, d'abord, l'histoire entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron, quand même, pour la plus grande part, les regarde. Même si on peut, comme tu le fais, s'interroger. Moi, je pense que vous êtes puritain. Je pense qu'une histoire d'amour peut parfaitement naître entre une professeure de 40 ans et un élève aurait-il 15 ans. Je ne suis pas certain que leur histoire ait vraiment commencé quand il avait 15 ans.
Il n'en est jamais plein, et donc c'est bien la preuve que
il faut pas faire de puritanisme.
Et que
parfois il y a une petite complexité des choses au-delà des bonnes femmes les mains sur les hanches dans leur cuisine qui sont choquées par
Tu as un raisonnement de puritaine américaine, je suis désolée, j'ai un raisonnement de maman, tu m'excuseras.
C'est typiquement le genre d'argument.
Non, c'est pas un argument, je suis désolée. On peut bien faire une série sur, moi j'ai pas dit qu'il fallait pas faire une série sur madame Macron.
C'est intéressant.
Je dis juste que de le dépeindre comme femme libérée et romanesque, ça reste quand même, un mineur avec une prof en autorité bien plus
puritain et pénal. C'est marrant parce que tout de suite on a la notion d'autorité qui est une notion d'autorité qui existe dans le code pénal. C'est ce que Philippe Muret appelle l'envie de pénal.
Pas aujourd'hui, ils sont très beaux.
Franchement, dans l'univers écroulé qu'est la Macronie, je trouve que Brigitte Macron se tient.
Oui.
Moi, je trouve qu'elle tient son rang. Je trouve
qu'elle a une certaine dignité dans tout ça.
Et j'ai plutôt plus de sympathie pour elle que pour tous les autres dans cet écosystème. Donc, cette série me paraît pas complètement malvenue, tu vois, je serais presque d'accord avec toi, Charles.
Sauf que du coup, cette série, et peut-être qu'elle a accordé le droit de faire cette série.
Non.
Déjà,
non, elle n'est pas.
Justement, il y a plusieurs questions. Pardon.
Parce que du coup, à mes yeux, elle se tient moins si elle est d'accord avec cette série.
Tout d'abord, c'est la Gaumont. Et l'Élysée fait savoir qu'il n'était pas au courant. Et donc, c'est dont acte. Ils viennent d'apprendre qu'il y a une série. Alors, bon, est-ce qu'il faut les croire ou pas? Je ne sais pas. Et deuxièmement, on ne connaît pas le diffuseur. C'est assez bizarre. Parce qu'en général, quand on annonce une série, on dit, voilà, ça va être pour France Télé, Netflix, Amazon. Et là, c'est Gaumont. C'est pas n'importe quoi, Gaumont. C'est une grande société de production française qui dit, on va faire une série, on va développer une série autour de Brigitte, on sait pas qui va la diffuser. Et c'est ça qui sera intéressant. Par exemple, est-ce que le service public se sentir obligé d'acheter une série sur Brigitte Macron? C'est pas anodin. Le président est toujours en exercice. C'est pas une série. Qu'on fasse une série sur Brigitte Macron quand Emmanuel Macron aura quitté l'Élysée, pourquoi pas?
Mais il faut privatiser l'audiovisuel public.
Ça, c'est un autre débat.
Tu as vu qu'ils vont tous à Cannes?
Oui.
Mais c'est
4 milliards d'euros, l'audiovisuel public.
C'est extraordinaire. Mais moi aussi, je vais aller à Cannes. Je vais demander à France Télé qu'ils me payent moi aussi mon billet.
Malgré le scandale des notes de Delphine Arnault
je veux qu'ils me payent mon billet d'avion et ma suite au Carlton. Moi aussi, il n'y a pas de raison que tout France Télé y aille.
Il y a des émissions pour lesquelles c'est justifié quand même.
Ah bon, lesquelles? On va voir. Pas toutes, à mon avis. Pas forcément. On va voir. Je demande le détail des choses, je demande un audit, je demande savoir où ils sont logés, je veux une transparence à France Télé. Je vais voir d'ailleurs si je le demande pas de manière un peu contraignante. Je veux une transparence sur toutes les dépenses de France Télévisions dans le cadre du Festival de Cannes. Je veux savoir qui est logé où et à quel prix. Ça m'intéresse.
Parce que la nomenclature à la française,
crois-moi, ils se font plaisir.
Voilà, écoutez, on est passé de Brigitte Macron au Festival de Cannes, c'est ça les grandes gueules.
Parce qu'elle est glamour quand même.
Merci Anaïs Sens.
Oui. Ça va cartonner.
Je sais pas, mais qui pour jouer Brigitte Macron, surtout quelle actrice?
Mais oui,
c'est pas moi. Non, Didier, mais t'es pas acteur, Didier. Ça nous a pas échappé. Mais qui pourrait jouer ce rôle?
Ça dépend à quel moment de sa vie. Je sais pas
si on prendra plusieurs actrices, à mon avis.
Ça fait un peu comme Julie Godrèche. Allez, dans un instant, le GG 7 et match. Faut-il limiter les écarts de salaire? En fait, c'est de nouveau au devant de la scène, cette histoire, parce que Carlos Tavares choque avec son salaire de 36,5 millions d'euros pour l'année 2023, qui a été validé par les actionnaires de Stellantis. Et donc, la gauche, de nouveau, dit il faut limiter les écarts de salaire 1 à 20 dans les entreprises. Il y a d'ailleurs des propositions de loi qui vont dans ce sens. Est-ce qu'il faut limiter les écarts de salaire dans les entreprises? On en débat avec vous 32-16 et ça sera le match qui va opposer deux équipes. Je vous présenterai dans un instant. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec Didier Giraud, Joël Dagosséry, Charles Consigny. Et vous le savez, un nouveau gagnant à 11h24, car toutes les heures, on vous fait gagner deux places pour les JO Paris 2024 à la 24e minute de chaque heure. Donc on l'a fait à 9h24, à 10h24, donc la prochaine fois c'est 11h24. Mais pour cela, il faut vous inscrire avant. Si vous voulez qu'on vous appelle et vous faire gagner ces places, vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16. Et tout à l'heure, donc, à 11h24, pile, j'appelle l'un d'entre vous pour lui offrir deux places. Il y a le choix, hein. Ça peut être la cérémonie d'ouverture, la finale du 100 mètres, ça peut être du basket, du tennis de table, du judo, bref, il y en a pour tous les goûts et ce sont des places que RMC a réussi à se procurer. Je sais qu'il n'y en a plus beaucoup à la vente, donc c'est vraiment un beau cadeau à ne pas louper. 11h24, hein, notez bien le rendez-vous. Allez, c'est parti pour le GG7 et match.
RMC.
GG7 et match.
On va revenir sur le salaire mirobolant de Carlos Tavares, 36,5 millions d'euros pour l'année 2023. Il a été validé par l'Assemblée des actionnaires réunis hier, ceux de Stellantis bien sûr, et ça relance le débat sur les salaires des grands patrons. Faut-il les plafonner? Faut-il fixer des règles? Des députés communistes, socialistes et insoumis souhaitent limiter les écarts de revenus dans les entreprises. Par exemple, l'insoumis Mathias Tavel annonce le dépôt d'une proposition de loi pour fixer un salaire maximum dans les entreprises en limitant à 20 les écarts entre la plus grande rémunération et le plus petit salaire. Écoutez.
Nous, on porte l'idée d'un salaire maximum fixé par la loi, pas juste un salaire fixé, un écart de salaire entre le plus petit salaire de l'entreprise et le plus grand. Et on propose dans la proposition de loi que j'ai déposée hier au nom du groupe La France Insoumise, que ce soit un écart maximum de 1 à 20 entre celui qui est le moins bien payé dans l'entreprise et celui qui est le mieux payé. Si celui qui est le mieux payé veut s'augmenter beaucoup, il est obligé d'augmenter beaucoup celui qui est le moins bien payé. Alors, c'est une limite morale et c'est aussi un cercle vertueux économiquement.
Alors, faut-il effectivement fixer une limite pour le salaire des grands patrons de 1 à 20 dans une entreprise? Oui, dit Didier Giraud. Non, disent Joël Dagosséry et Charles Consigny. Didier, seul face au reste du monde, tu as 60 secondes pour démarrer.
Alors écoutez, ça vous a pas échappé que j'ai pas ma carte à la NUPES. Pourtant, je trouve que cette somme est indécente. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 36,5 millions d'euros? À quoi ça sert d'avoir 36,5 millions d'euros? Est-ce que 6,5 millions d'euros, ça serait pas déjà une belle somme? Enfin, moi, je veux bien entendre que monsieur Tavares, là, il est dans une société qui a réalisé de super bénéfices, plusieurs milliards d'euros, et que c'est pour ça qu'il a une telle somme. N'empêche que je trouve la somme indécente, et j'ai réalisé ce matin dans le train un rapide calcul. 36,5 millions d'euros, c'est 67 vies de travail d'un paysan. 67 vies de travail d'un paysan à 1000 euros par mois. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, que je suis pas contre qu'il y ait des gros salaires sur les gros PDG des entreprises qui rayonnent dans le monde et en France. N'empêche que je pense que cet argent-là, il aurait pu aussi servir à faire du développement, à faire de la recherche et à solidifier cette entreprise en dehors du débat que je trouve un peu démagogique de dire il faut augmenter les petits salaires et il faut plafonner entre les petits et les gros salaires. Je pense que ce pognon-là, on lui aurait donné 6,5 millions d'euros, on en aurait mis 30 millions dans la recherche, ça serait été tout aussi bénéfique pour l'entreprise.
Joël, Charles.
Non, moi je pense que le salaire de M. Tavares est sans doute indécent, puisque quand même, cet homme n'a pas créé, loin s'en faut, Peugeot, Citroën, ni Fiat, ni Chrysler.
Mais il a peut-être sauvé.
Qui compose le groupe. C'est sans doute un patron performant. On verra ce que donne ce groupe sur le long terme. À ce stade, c'est évidemment un patron performant. Sa rémunération a été très largement validée par les actionnaires. Je constate d'ailleurs qu'au sein du même groupe, John Elkann, qui est l'héritier Agnelli, l'héritier donc Fiat, c'est quant à lui versé, mais ça c'est moins vu forcément, un peu plus de 5 millions d'euros et que parmi les avantages liés à sa fonction figurent des déplacements en jet privé. Bon, lui non plus n'a pas créé aucune de ces sociétés. Je fais le distinguo quand même entre les managers et les entrepreneurs. Après, donc je pense qu'il devrait faire preuve d'un peu plus de décence, d'autant que j'ai vu que des témoignages des salariés de Stellantis commençaient à s'exprimer et que certains qui ont des anciennetés très importantes plafonnent à des salaires quand même très faibles. Et je pense que sans mettre dans la loi des écarts de salaire, il faut de la décence et de la justice dans les entreprises.
De la morale qu'il faut.
On peut pas se payer 40 millions d'euros quand on n'augmente pas aussi, on ne verse pas aussi des primes aux salariés. Ceci étant dit, je crois qu'il faut se garder quand même des passions tristes françaises, au premier rang desquelles la jalousie est toujours très en pointe, une espèce de diabolisation de l'argent. Un patron très performant qui obtient des très bons résultats, à mon sens, c'est comme c'est comme dans tous les domaines, il faut récompenser la performance. Donc voilà, je pense qu'il faut pas être...
Non mais t'enlèves le 30, devant 36 millions, t'enlèves le 30. Est-ce que c'est pas déjà récompensé?
C'est-à-dire, peut-être, mais 30,
ça veut dire qu'il est à 6,5 millions d'euros d'année.
Non mais bien sûr, attends Didier, je pense que c'est un glouton, qu'il est sans doute fasciné par l'argent et qu'il y a une forme d'indécence dans sa rémunération qui risque en plus de plomber l'ambiance dans son entreprise.
Mais est-ce qu'il faut limiter les écarts de salaire de 1 à 20?
Chiffre-là...
Parce que c'est ça la question.
Ça me paraît soviétique.
Non, je suis complètement d'accord avec ce que Charles vient de dire, notamment sur la rémunération. D'ailleurs, enfin, on le dit pas assez parce qu'on fait toujours la même erreur aussi avec Bernard Arnault, c'est que c'est pas son salaire qui est de 36 millions d'euros, hein. D'accord. Non. Donc, ce sont des primes qu'il perçoit.
C'est des primes. Il va pas tout percevoir d'un coup. Il y a des actions. En fait, c'est des actions beaucoup. C'est au résultat. Parce qu'en fait, Tavares, plus de 90% de sa rémunération, c'est une part variable.
C'est ça.
C'est en fonction des résultats.
Voilà.
Son fixe, c'est 2 millions, hein.
Voilà.
S'il fait une année pourrie l'an prochain, il rend rien, hein.
Non.
Je vous rassure, il rend rien, quoi.
Oui, il rend rien, mais il sera à ses 2 millions.
C'est là où la gauche, joue un peu avec le truc, c'est que on a l'impression que c'est son salaire qui tombe chaque mois.
Non, voilà. C'est pas très honnête. Parce qu'en plus, pour toucher ce type de prime, ça veut dire que, un peu comme les commerciaux d'ailleurs, s'ils veulent toucher leur prime, leur part variable, ils sont obligés de se donner, d'être très bons, etc. Donc, il a dû être très bon pour avoir ces 36 millions d'euros.
De tous les spécialistes, il est très très fort. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a été chez Renault, là il est chez Stellantis, et à chaque fois il sauve les boîtes.
C'est ça.
Il est très foutifié. C'est-à-dire qu'il a fait gagner des dizaines de milliards d'euros à Stellantis.
C'est ça. Et si nous les Français, on tombe dans... Ben, on lui enlève les 30 millions, comme dit Didier. Enfin, on ne vit pas sur une île, hein. Je veux dire, il ira, Tavares, se vendre dans un gros groupe américain ou chinois, je n'en sais rien, et il touchera ses 36 millions ou peut-être même plus. Donc ça, c'est la première chose. On est en concurrence mondiale. Et la deuxième chose, c'est que cette façon française, en fait, de tirer vers le bas, en fait, parce qu'on n'arrive pas à monter, c'est-à-dire que on n'arrive pas à mieux payer les salariés, on n'arrive pas aussi à leur donner des leviers pour avoir plus d'argent. Pourquoi est-ce qu'on favorise pas l'actionnariat?
Ah bah, tu demandes pas à la France insoumise
pourquoi
de dire aux salariés.
Pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas les salariés à être beaucoup plus actionnaires plutôt que de dire au patron, tu dois te payer moins.
Les actions,
je suis pas dupe sur le jeu politique de l'extrême gauche et l'histoire du 1 pour 20. Moi, j'y souscris pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a d'autres boîtes. Monsieur Arnault, il balance du pognon ses salariés, mais dans des mesures un peu astronomiques. Et c'est pas le cas chez Stellantis, quoi.
C'est ça qui est indécent.
On peut être d'accord là-dessus quand même. Le chiffre est indécent. Ne tombons pas dans le piège de la NUPES,
Monsieur Giraud, Mbappé, il touche le double. Il touche le double.
Mais c'est encore plus indécent.
Mais je t'ai jamais entendu le dire. Non.
Ah si, mais je le dis.
Non.
Non, mais à qui veut bien l'entendre?
Kylian Mbappé. Mais moi je trouve
Kylian
pas.
Mbappé.
Mais moi je trouve pas que c'est indécent.
Mais c'est indécent.
Mais,
non.
Mais,
non.
Mais parce que c'est des gens exceptionnels. Mais en fait, vous êtes dans mais la médiocrité. Mbappé, il y en a un par génération. Le type, il fait rêver des millions de gens. Hier, il a fait rêver des millions de gens. Eh bien, c'est le prix du talent.
Et
c'est
le prix tu vois,
entre guillemets du
talent,
génie.
Du travail.
Il y en a un. C'est comme ça.
Mais c'est ce qui fait que notre jeunesse, elle est complètement paumée. Ils veulent tous devenir footballeurs. Mais qui veut bosser de ses mains aujourd'hui? Mais ils veulent tous être les gamins de 15 ans. Ils veulent tous être influenceurs.
Tu te contredis.
Pourquoi
qui
parce que tu
les
fais rêver avec ton pognon.
Tu te contredis parce que dans ce cas-là, il ne faut pas baisser le salaire. Tavares, si tu veux qu'ils deviennent tous ingénieurs, Tavares, il a fait Centrale. C'est la méritocratie à la française. Il a fait Fermat, Toulouse, lycée public.
Tavares, c'est pas Mbappé sur le salaire encore.
D'accord.
Non, mais il y a des crans dans le truc.
Non, mais attends.
Tu peux monte le salaire.
Je trouve que vous
tout est très vite indécent. Quand on se dit que être riche, c'est avoir 5000 euros par mois, c'est ce qu'on nous dit. Quand on te dit que être riche, c'est avoir 4000 euros par mois, on devient très vite indécent dès qu'on a 10 000, 15 000, 20 000, c'est un petit peu trop, et puis 36 millions, on en parle
même plus. À partir du moment où dans une vie, tu n'arriveras pas à bouffer ce que t'as gagné dans l'année, je trouve que c'est indécent. Et moi, je le place sans problème sur le niveau de la morale, quoi.
À la limite,
et aujourd'hui, que des gamins de 15 ans et 90% de la génération passent leur vie avec un portable entre les mains et rêvent d'être influenceurs et de gagner du pognon sans rien foutre de sa vie.
Des gamins,
ça me pose un problème.
T'as des gamins qui rêvent d'être ingénieurs aussi.
Si, c'est lié, Olivier.
T'as des gamins qui rêvent d'être ingénieurs. Mais comment tu veux? Si tu dégommes un ingénieur, pourquoi est-ce que tu veux qu'un gamin ait envie d'être ingénieur? Tu viens de dégommer un ingénieur.
Mais parce qu'on est dans la culture de l'hyper-pognon, quoi. L'argent, elle est facile. Enfin, Tavares, il a beau être un super bon. Moi, je l'ai pas vu sur une chaîne, quoi. Hein. Et il y a des mecs sur la chaîne qui sont à 1000 euros, quoi. Hein.
C'est pour ça que Tavares,
enfin, à force de faire la part belle aux improductifs par rapport aux productifs.
Il est improductif, Tavares.
Ah,
bah,
il n'est pas non plus improductif. Voilà. Non, mais
écoute. Il y a 250 000 personnes qui ont un boulot grâce à lui. Pardon, je suis désolé. S'il n'avait pas sauvé Stellantis, il y aurait des gens au chômage. Et des impôts serviraient à payer ce chômage. Moi, je trouve que les 36 millions, ça me paraît complètement dingo parce que je sais pas comment il les dépense.
On peut être d'accord là-dessus.
Il ne vole personne et surtout c'est pas parce que lui il y a beaucoup d'argent que les gens vont avoir moins. Si tu veux, tu me parles du type qui est sur la chaîne, le type sur la chaîne, tu fais baisser le salaire Tavares, ça changera rien à sa vie.
Écoute, il y a d'autres PDG qui fonctionnent différemment.
Oui.
Tu vois, moi j'ai un gendre qui travaille dans le groupe LVMH, ils ont des primes de fin d'année mais qui sont colossales, quoi.
Oui.
C'est vrai. Qui représentent 6 mois de salaire.
Un très bon salaire aussi.
Qui représente 6 mois de salaire. Oui, mais du coup dans la boîte ça se passe mieux, quoi. Ça se passe mieux dans la boîte.
Alors à ce moment-là,
quand il y a du ruissellement, à mon avis, c'est pas vécu pareil que Tavares.
Oui, donc il faut demander plus de ruissellement, mais pas dire que en fait c'est indécent et qu'il aurait pas dû toucher ça. En fait, il faut plutôt favoriser le ruissellement que demander à Tavares de couper sa rémunération, de l'enlever de cette.
Non, ce que je trouve indécent, c'est de gagner du pognon que t'arriveras pas à dépenser dans une seule vie et gagner du pognon comme d'autres auront.
C'est pas.
Alors, à la limite, c'est son problème. Tu sais, ça coûte cher, les maisons.
T'as des millionnaires qui sont super endettés.
Après, c'est peut-être de l'ego aussi. C'est-à-dire que le type, il veut gagner autant que ses collègues. C'est-à-dire que s'il pense, il veut gagner autant que j'imagine que le patron de General Motors, que le patron d'Apple, il y a un côté d'ego, tu vois.
Non, mais là, moi, après, si tu veux, c'est quand même des boîtes. Bon, moi, même Ghosn, j'aimais pas trop son style chez Renault. C'est des boîtes anciennes, avec des usines, des ouvriers. C'est des boîtes qui ont une histoire. C'est des boîtes qui sont un peu quand même, au moins dans l'imaginaire de tous les Français, Peugeot, Citroën. Ces espèces de types qui sont dans une espèce de supramonde avec leur conseil d'administration à la con et qui sont là à se voter des super rémunérations. Non, je trouve ça vulgaire.
Alors, on continue dans
le débat. Je trouve qu'il est quand même vulgaire avec ses 36
patates. Faut-il limiter les écarts de salaire de 1 à 20? Je reprends la proposition du député insoumis. Oui, dit Didier. Alors toi, c'est pas 1 à 20, mais tu dis qu'il faut limiter quand même. Non, disent Joël et Charles. Dans un instant, on fera un point sur la tendance. À tout de suite sur RMC Story.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.